Accès libre.
Accès libre édition du 24 octobre avec Karine Villeneuve de l'Association des personnes de petite taille du Québec. Karine, c'est positif notre affaire aujourd'hui?
Oui,
ben... Je regarde ça, là. Et si on regarde le verre à moitié plein et même on sera même pas obligé de se forcer, 4 nouvelles positives.
C'est bien.
Le Rapplique, qui donne une mention d'honneur à une boutique Nespresso. On va causer avec Linda Gauthier. C'est plaisant, je trouve que c'est une belle initiative. Emma Québec, qui nous explique, qui nous cause de son plan d'action pour accueillir le bon sang des personnes à mobilité réduite. On va causer... En fait, la bonne nouvelle, ce n'est pas que les hôtels de Montréal ne respectent pas la loi dans le pourcentage des chambres accessibles, mais bien que la facture s'y est intéressée. Et normalement, lorsque les caméras grand public s'intéressent à quelque chose, c'est récupéré après. Et en tout cas, nous, on va le faire aujourd'hui et dans les prochaines semaines. Et vous me parliez d'un médicament oui. qui vraiment pourrait avantager le quotidien de certaines personnes.
Oui, mais en fait, ça s'appelle, il s'appelle Vimizim. C'est le seul médicament, traitement homologué par Santé Canada pour les personnes qui vivent avec la maladie de Morquio. La maladie de Morquio, c'est une maladie bien sûr rare et c'est une maladie aussi qui est reliée au nanisme. Beaucoup de personnes chez nous de petite taille vont avoir ce syndrome-là. En plus, qu'est-ce qui est particulier pour cette condition-là, c'est qu'en plus de la petite taille, il y a d'autres facteurs, une santé un peu plus fragile ou une condition un peu plus dégénérative. Alors, ce médicament-là va améliorer grandement la qualité de vie des personnes qui suivent le traitement. J'en ai d'ailleurs moi-même parlé avec certaines jeunes filles là, qui ont participé là, à la campagne « Ma vie n'attend pas ». Et depuis qu'elles suivent ce traitement-là, depuis, je pense, 2 ans à peu près, là, ça l'a changé du tout pour tout, parce qu'on parle de personnes où on devait utiliser un fauteuil roulant, avait cessé de marcher, au niveau de la structure osseuse, il y a des déformations, il y a comme des comment je pourrais dire ça, je sais pas, une dégénération qui peut se faire, alors ça vient stopper. Et ça fait que ça donne une très grande qualité de vie et les gens peuvent avoir une vie encore plus normale.
Et on va profiter du fait que Gail Ouellette est au bout du fil, elle qui est du regroupement québécois des maladies orphelines. Bonjour Gail.
Bonjour.
Ce médicament, est-ce qu'il est, disons, est-ce qu'on a suffisamment fait de tests pour savoir qu'à long terme, il n'y aurait pas d'effets secondaires? Parce que ce que Karine décrit, c'est non seulement une amélioration, mais une amélioration, somme toute, assez rapide de la condition de la personne.
Oui, bien, c'est un médicament qui... premièrement, c'est pas le premier médicament du genre, là. C'est ce qu'on appelle un remplacement enzymatique. C'est la maladie de Morquio, c'est une déficience d'une enzyme. Et puis, on a fabriqué là, cette enzyme en laboratoire dans du vivant. C'est des techniques là, de biotechnologie là, génomique. Puis, mais c'est à peu près le 6e, 7e, là, si je me rappelle bien, de ce type de médicament qui a été, qui est déjà utilisé depuis des années pour des maladies semblables, la même catégorie de maladies. On fait des infusions de cette. C'est pas un comprimé oral, des infusions. Puis, donc, on est assez habitué, là, avec. Le type de médicament, le processus, puis évidemment, pour la maladie de Morquio, le Vimizim a été testé dans les règles de l'art avec les essais cliniques phase 1 jusqu'à 3 et plus. Donc, la phase 2, évidemment, c'est là qu'on teste pour la sécurité, finalement,
ouais, ouais.
Pour l'innocuité, pour voir s'il n'y aurait pas des effets indésirables sévères, graves. Et puis, ça a passé la phase 2. Puis là, après ça, on a fait l'étude là, sur un total de 176 personnes à travers le monde, dont certains au Québec. Puis, pour vraiment tester son efficacité à ce moment-là versus un placebo.
Je suis curieux. Et, est-ce que l'une de vous deux, savez, bon, c'est une infusion. Qu'est-ce que ça goûte?
Une infusion, ben c'est intraveineuse.
Ah, OK. Moi, je voyais ça comme une tisane avant de se coucher.
Oui,
là.
Oui, hein, comme une tisane. Non, excusez, hein, encore les termes médicaux, mais c'est par voie intraveineuse. Donc, les gens, en général, là, ils vont à l'hôpital pour ce traitement-là. Mm-hmm. Quoique, ça peut se faire à la maison, là, dans certains cas. Mais... En fait, pour terminer donc sur les effets indésirables, il y en a eu comme il y en a eu pour d'autres maladies où il y a de ce traitement semblable qui peuvent être des réactions allergiques, tout ça, mais en général, c'est bien contrôlé, traité. Fait que, bon, puis à long terme, ben tous ces médicaments-là semblables, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on introduit une enzyme que le corps a déjà. Donc, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait, comme pour certains médicaments qui sont des produits chimiques synthétiques, là, qu'il y ait quelque chose qui arrive plus tard. Là,
Est-ce que finalement, c'est comme si on redémarrait l'usine de fabrication de cette enzyme-là qui était défectueuse?
Bien, ça serait plutôt la thérapie génique. D'ailleurs, il y en a des travaux là-dessus. On n'est pas encore rendu là, mais la thérapie génique, ce serait ça. Ce serait de remplacer le gène qui est défectueux par un bon gène. Puis ça, à ce moment-là, l'usine dans la cellule va aller fabriquer l'enzyme.
Ouais.
Tandis que dans ce cas-ci, c'est vraiment l'enzyme qui est fabriquée dans des usines vivantes, presque à grande échelle, et on extrait l'enzyme, puis par infusion, on le met dans le corps de la personne qui est atteinte.
Karine Villeneuve, je sais que vous avez parlé à certaines personnes qui utilisent ce médicament-là. Bon, là où le bas blesse, c'est qu'il est très coûteux. Je présume que ces gens à qui vous avez causé ne voudraient pas s'en passer. Ont-ils des solutions? Craignent-ils d'avoir à devoir arrêter? Qu'est-ce qu'on dit sur le souci du coût?
Bien, c'est sûr que, entre autres, j'ai parlé à Laurie, 19 ans, qui est aussi membre chez nous. C'est sûr qu'elle a changé sa vie. Ça lui permet tellement de reprendre ses activités, de travailler. C'est sûr que le médicament coûte beaucoup d'argent, mais en même temps, si ça permet à des individus, des Québécois, à reprendre le marché du travail, à investir et tout ça, j'imagine que... Pour interpeller nos gouvernements pour montrer cet élément-là, pour que ça peut être rentable. Parce que c'est. Ben, je ne sais pas, Gaël, c'est combien à peu près les chiffres, là, combien ça coûte là, par personne, par année?
Mm-hmm. Ben oui, c'est parmi les médicaments coûteux pour les maladies rares, malheureusement. Puis on parle ici là, d'un 200 000 à 300 000 par personne par année. Puis en principe, c'est un médicament qu'on prend à vie. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est pour peu de personnes.
Mm-hmm.
Puis on a un budget de médicaments au Québec de 4 milliards de dollars. Donc, il y a
par année.
Oui.
D'accord.
Et pour nous, quand on fait nos calculs, puis même en incluant d'autres maladies rares, c'est très peu, là. C'est une goutte là, dans la mer, comme disait un médecin d'ailleurs. Mais c'est ce qu'on appelle les médicaments orphelins. C'est des médicaments qui sont faits expressément pour des maladies rares. Déjà, il y en a très peu. Il y a 7000 maladies rares, mais il y a 250 produits seulement pour des traitements.
Mais voilà où loge le problème. C'est que, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de l'administrer à beaucoup de patients. La mauvaise nouvelle, c'est que s'il y en avait plus, il coûterait moins cher parce qu'on pourrait le faire à plus grande échelle.
Bien, c'est ça le problème des maladies rares. Et c'est pour ça qu'il y a 30 ans, personne ne s'intéressait à développer un médicament pour les maladies rares.
Vous n'êtes pas dans bonne association, Gail.
c'est pour ça qu'on s'appelle Orphelin, puis en espérant qu'on ne le demeure pas toujours.
Ouais.
Mais et il y a 30 ans, aux États-Unis, on fait, poussé par les associations de patients, ce qu'on appelle le Orphan Drug Act, donc un règlement pour les médicaments orphelins, puis il donne des incitatifs financiers aux compagnies pour faire ces médicaments-là. Alors ça, ça a marché, c'est pour ça qu'aujourd'hui, au lieu de 10 médicaments, on en a 250, mais le marché reste petit quand même. Il faut qu'ils développent, puis ils ont des coûts. Puis là, pour que eux, ce soit rentable, ben, les prix sont élevés. Puis en plus, c'est souvent des biologiques qu'on appelle, des médicaments biologiques. Donc, c'est déjà, ça, c'est de l'innovation technologique. Là, donc, ça aussi, ça a des coûts. Fait que c'est ça la situation. Fait que c'est comme un cercle vicieux. Là. Si les gouvernements ne veulent jamais payer ça, ben là, on va arrêter d'en faire. Ça veut dire que les personnes avec les maladies rares, contrairement à toutes les autres personnes malades dans la société, n'auront jamais leurs médicaments, jamais leurs traitements. Fait qu'en tout cas, nous, ce qu'on demande, c'est qu'on trouve une façon là, d'intégrer ça, parce qu'on trouve que c'est une situation injuste là, pour les personnes qui ont des maladies rares.
C'est sûr. Mais dans ce cas-ci, vraiment, bon, je calcule, là, Laurie, disons, ça va être plus simple, si je commence à 20 ans, elle vit jusqu'à, disons, 80, ça fait 60 ans, à 2 à 300 000 par année. C'est quoi? C'est-tu 180 millions ou 1,8 milliard? Là, il me manque un zéro quelque part.
Ouais.
Bon, quand on dit la vie n'a pas de prix, dans ce cas-là, ce serait vrai, là, ce serait l'argument. Là. Parce qu'il y a combien de personnes qui pourraient se voir administrer ce médicament?
Ben là, c'est juste des estimés qu'on a. C'est comme ça pour les maladies rares. On a de la misère à toujours savoir combien il y a de personnes, où elles sont, tout ça. Mais on estime là, peut-être 40 à 50 personnes. Là-dessus, on sait qu'il y a des adultes là, qui sont... On a fait même un petit sondage, là, puis il y a des adultes qui disent soit déjà non ou soit qu'ils ne sont pas du tout certains qu'ils voudraient avoir le médicament. Ça, c'est pas toutes les personnes là, qui le veulent. Donc, bon, mais mettons qu'il y en a 20, 30. Ouais.
Mais ça, c'est pour le syndrome de Morquio, où je présume que ce médicament-là est aussi, disons, efficace dans d'autres situations, parce que vous sembliez dire en début d'entrevue que oui, là, ça pourrait en aider d'autres qui vivent d'autres réalités.
C'est-à-dire qu'il y a des médicaments semblables, une autre enzyme, là, qui sont pour d'autres maladies. Puis, au Québec, il y a d'autres groupes comme ça qui ont réussi à avoir leurs médicaments. Il y a un centre de traitement de la maladie de Gaucher, il y a un centre de traitement de la maladie de Fabry, qui sont des maladies dans la même catégorie, que c'est le même type de traitement. Puis eux, ils ont réussi, puis même ils ont réussi sans que ça passe par le processus normal, par lequel là, le Vimizim est en train de passer. Puis, il l'offre. Alors, ça aussi, on trouve que c'est un problème parce que comment on peut décider dans une société qu'un certain groupe a leurs médicaments?
Ben, le problème, c'est pas qu'ils l'ont, c'est que d'autres ne l'ont pas. C'est plutôt
exactement.
Ça.
Ouais, ouais, ouais. Exactement.
Gail, je suis obligé de laisser cela, malheureusement, pour vous et pour nous dans ce sujet-là. Bon, il y a d'autres sujets à couvrir, mais vous avez été assez gentille pour accepter de quitter votre 819 tous les vendredis de novembre et venir vous asseoir à la place de Karine.
Merci pour l'invitation et merci pour votre intérêt à ce sujet.
J'avais un intérêt et vous l'avez décuplé dans les 12 dernières minutes. Merci beaucoup, Gail Ouellet.
Merci. Au revoir à Luc et Karine.
Gail, qui est du Regroupement québécois des maladies orphelines. Petite pause musicale bien brève, le temps de faire entrer Claire Frémont, qui est journaliste à l'émission La Facture, et Sophie Lanteau de la Société Logique.